Ce matin, je voulais vous raconter non pas une, mais trois histoires. Première histoire. D'après un sondage, les Américains sont 91% à condamner l'adultère, 91% à être contre l'extra-conjugal, 91% d'opinions défavorables. C'est largement plus que leur opposition à la polygamie, à la peine de mort et bien sûr à la libre circulation des armes à feu. En d'autres termes, ils préfèrent la libre circulation des flingues à la libre circulation des épouses et des époux. Seconde histoire. La société Uber, société dont il va être question aujourd'hui dans Service Public, société qui propose de concurrencer les taxis en offrant des voitures avec chauffeur, Uber, m'a envoyé ces nouvelles conditions de confidentialité, le truc auquel vous ne prêtez jamais, jamais attention. Vous ne voyez pas le rapport entre la condamnation américaine de l'adultère et les nouvelles conditions de confidentialité d'Uber. Eh bien, si vous ne voyez pas le rapport, c'est que vous ne connaissez pas le scandale dans lequel Uber a été impliqué. Uber a ainsi menacé, il y a quelques mois, de révéler les liaisons adultères d'une poignée de journalistes critiques vis-à-vis d'Uber et cependant utilisateurs du système. Sous-entendu, journalistes, que vous trompiez vos lecteurs, tout le monde s'en fout. En revanche, si vous trompez votre mari ou votre femme, là, ça, c'est autre chose. Alors vous allez me dire, comment sait-on qu'un individu qui prend une voiture avec chauffeur va rejoindre son amant ou sa maîtresse? Eh bien, si vous, vous l'ignorez, l'ordinateur, lui, le sait, car il peut par exemple découvrir que vous partez d'un domicile qui n'est pas le vôtre à 4h du matin. Troisième histoire, Uber, malgré ce scandale, est aujourd'hui valorisé quelques dizaines de milliards de dollars. Morale de ces trois histoires, c'est qu'il n'y a pas de morale. Une entreprise peut avoir des comportements délictueux, un pays accepter la libre circulation des informations et tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme si ce pays refusait de devenir adultère.
France Inter, service public, Guillaume Erner.
L'économie collaborative, l'ubérisation de la société, des termes étranges, des termes qui sont aujourd'hui de plus en plus employés, qu'on va s'attacher à définir. On va essayer de vous montrer en quoi cette nouvelle économie va changer votre existence, va changer votre quotidien. Peut-être d'ailleurs l'a-t-elle déjà en partie bouleversée. On en parle en compagnie d'Arthur De Graaf. Bonjour.
Bonjour.
Arthur De Graaf, vous êtes rédacteur en chef du magazine We Share et co-auteur du livre Société collaborative, la fin des hiérarchies aux éditions L'Échiquier. En face de vous se trouve Michel Lévy-Provençal. Bonjour Michel Lévy-Provençal.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de TEDx et à l'initiative de l'échappée volée en partenariat avec France Inter qui aura lieu le 6 juin au château de Chambord. En un mot, pourriez-vous nous définir ce qu'est TEDx et l'échappée volée, Michel Lévy-Provençal?
TEDx est un événement qui a pour vocation de partager des idées pour changer le monde, tout simplement. Et l'échappée volée est une extension de cet événement qui permet à notre communauté de pouvoir s'engager auprès de projets qui ont du sens et dont la vocation est aussi de changer le monde.
Sandra Wabian, bonjour. Vous êtes chercheuse et directrice du pôle évaluation et société au CREDOC, le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Et puis enfin, un professeur, Frédéric Fréry, bonjour. Vous êtes bonjour. Professeur de stratégie à l'ESCP Europe. Frédéric Fréry, si vous deviez définir ce qu'est Uber, ce que fait Uber, que diriez-vous ?
Uber, c'est une société qui concurrence les taxis en utilisant des particuliers qui apportent leur propre voiture.
Donc ça, c'est sympathique, mais je vous dirais que si on ne prend pas le taxi, tout le monde ne prend pas le taxi, et a priori, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas. En quoi cette société fait couler autant d'encre? Pourquoi parle-t-on d'ubérisation de la société, autrement dit un néologisme construit à partir du nom de cette société Uber?
Parce que l'idée qu'une entreprise qui a ses salariés, qui a ses actifs, puisse être concurrencée par des individus qui apportent leur propre outil de travail, c'est ça qu'on appelle l'ubérisation. Et ça fonctionne donc avec les taxis, au travers de Uber, mais ça peut fonctionner avec beaucoup d'autres entreprises et beaucoup d'autres services. Vous avez peut-être entendu parler de Airbnb, où ce sont des particuliers qui louent leur propre chambre et concurrencent les hôtels. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça à l'heure actuelle.
Donc si je comprends bien, Uber, c'est une société qui offre un service Internet. C'est uniquement un site Internet. Uber est une société qui propose des voitures avec chauffeur, mais qui n'a pas de voiture ni de chauffeur comme employé.
C'est ça, on peut parler d'une plateforme en fait. Et cette plateforme rassemble des individus qui sont des indépendants et qui apportent leur propre voiture. Et ça fait concurrence à des entreprises qui, elles, ont leurs salariés et leurs actifs.
J'ai dit en introduction qu'Uber était aujourd'hui valorisé plusieurs dizaines de milliards de dollars. Aucune société de taxi n'arrive ne serait-ce qu'au centième de cette valorisation. Comment expliquer, Frédéric Fréry, qu'une société comme Uber soit valorisée autant d'argent?
Alors, il n'est pas toujours facile d'expliquer rationnellement la valorisation des entreprises, mais disons qu'une des différences avec les sociétés taxis, c'est que Uber est une société mondiale, présente dans à peu près tous les pays, et que par ailleurs, grâce à sa plateforme Internet, elle a de grosses bases de données. Vous en avez donné un exemple tout à l'heure dans l'introduction sur les gens qui l'utilisent, et ça, ça a une valeur auprès, évidemment, des annonceurs qui veulent faire des publicités.
Sandra Ouabian, on le voit, une révolution est en marche, une révolution parce que le capitalisme attend énormément de ces sociétés, et c'est ça qui est un peu surprenant, parce que on a beaucoup parlé d'économie collaborative en disant c'est sympa, vous avez une perceuse, vous la prêtez à votre voisin, puis on a dit bah c'est sympa, vous avez une perceuse, vous allez la louer à votre voisin, ce qui est déjà moins sympathique, et finalement on se dit est-ce que tout ceci relève d'une modification de nos comportements de consommation?
Oui, en fait, le collaboratif, c'est un peu comme le mythe qu'il y avait au moment de la naissance d'Internet. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vertus qui sont prêtées au collaboratif. On va devenir tous amis, on va pouvoir vivre dans un monde meilleur, plus écologique. Comme un petit peu au début d'Internet, qui était un espace à la fois plein de liberté, plein de démocratie. Et puis aujourd'hui, les géants de l'Internet, c'est Google, c'est Facebook, ce sont tout un tas d'entreprises qui finalement gagnent de l'argent. Et dans le collaboratif, il y a des initiatives qui sont vraiment collaboratives, c'est-à-dire qui vont apporter une plus-value à la collectivité. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'initiatives qui sont en fait tout simplement la monétarisation de choses qu'avant on ne faisait pas payer.
Donc avant, voilà, c'est-à-dire qu'avant vous pouviez
par
exemple
au garage, et puis maintenant elle est plus au garage, finalement on va pouvoir en tirer profit.
Ou quand vous prêtiez votre perceuse à votre voisin, vous ne lui demandiez pas des sous. C'est ce qui est en train de changer, avec quelles conséquences? On en parle tout de suite après Claire Diterzi, Infiniment Petit, un disque choisi par Stéphanie Texier et Thierry Dupin.
Service public 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
Petit, on se noie dans un verre d'eau.
service public sur France Inter, l'ubérisation de la société, l'économie collaborative, des mots nouveaux, des néologismes, car aujourd'hui notre rapport aux objets est en train de changer avec Internet. On peut emprunter la perceuse de son voisin, on peut faire concurrence au taxi avec sa voiture personnelle, ou on peut aussi utiliser autrement son appartement quand on n'y est pas.
Pas mal de nos amis ont souvent en fait fait des projets de louer leur appartement. Et donc ça s'est super bien passé. Donc c'est vrai qu'on s'est dit, pourquoi pas nous.
Ouais. On part souvent les week-ends. Donc on voudrait essayer de le mettre en location pour des petites durées. Donc pas des locations à la semaine, toutes les deux semaines. Souvent une nuit ou deux nuits, ou un week-end quoi. Voilà, partir faire ses locations, essayer de faire des rentrées d'argent un peu supplémentaires.
Mais avant de franchir le cap, ils ont besoin d'être rassurés, d'être certains de bien faire et de récupérer leur appartement en bon état.
On parle de cette révolution en compagnie de Frédéric Fréry, qui est professeur à l'ESCP Europe, Sandra Wabian, qui est chercheuse et directrice du pôle évaluation au Crédoc, Michel Lévy-Provençal, qui est fondateur de TEDx et à l'initiative de l'échappée volée, qui aura lieu le 6 juin prochain au château de Chambord, et c'est en partenariat avec France Inter. Et puis enfin, Arthur Degrave, qui est rédacteur en chef du magazine Oui Cher et co-auteur du livre La société collaborative, la fin des hiérarchies. J'en ai parlé en introduction, Arthur Degrave. Société collaborative, ubérisation de l'économie, c'est un peu la même chose parce que ça concerne des objets qui sont partagés sur Internet et c'est pas vraiment la même chose. Bref, comment pourrait-on s'y retrouver dans ce maquis-là ?
Eh ben, c'est pas évident, puisque l'économie collaborative, c'est tout sauf un univers homogène. C'est-à-dire que, on se concentre beaucoup sur Uber, qui concentre énormément l'attention, parce que c'est une entreprise qui croît extrêmement rapidement, qui a des manières pas toujours très délicates, notamment avec les journalistes, comme vous l'avez rappelé. Et en fait, tout cet univers-là est très très divers. Vous avez des modèles qui sont à but non lucratif, vous avez des modèles qui sont comme Uber beaucoup plus capitalistiques, vous avez des modèles qui mettent l'accent sur le partage. Alors moi j'aime pas trop le terme d'économie du partage justement parce que je trouve parce que je trouve qu'en fait il suscite des attentes un petit peu trompeuses parce qu'il a une teinte un petit peu morale justement. Moi il y a quelques années quand je commençais à parler d'économie collaborative, je passais pour un gentil hippie, aujourd'hui je passerais presque pour le fils spirituel de Margaret Thatcher. Mm-hmm. Donc c'est amusant de voir ces mouvements de balancier, mais partage en fait a suscité des attentes.
Mais vous sentez comment? Je vous demande pas des nouvelles de votre maman Margaret Thatcher, mais...
c'est gentil pour ma maman qui m'écoute. Non, écoutez, moi je me sens en fait assez sceptique et agnostique. C'est-à-dire que j'observe ces mutations de l'économie, effectivement, que vous avez décrites, qui sont des mutations où on voit qu'une économie, en fait, un capitalisme sans capital et sans salarié est en train de s'inventer.
Et, ce qui n'est pas génial pour les gens qui, par exemple, aimeraient être salariés.
Alors, pour le moment, il y a encore des gens qui sont salariés.
Certes, mais on a l'impression que le mouvement général consiste à vouloir se débarrasser des salariés.
Effectivement, mais alors le mouvement est général et Uber n'en est qu'un symptôme, je pense. Si vous voulez. C'est-à-dire que l'économie, le salariat de masse, pour tout un ensemble de raisons, est en train de muter et on est en train d'aller vers quelque chose d'autre. Alors moi, la question que je pose à partir de ça, c'est pas est-ce que Uber est gentil ou méchant, c'est est-ce que c'est un premier pas, enfin en gros, c'est un premier pas dans une direction, dans une société nouvelle, et est-ce qu'on veut que cette société soit pour le meilleur ou pour le pire? Voilà, je m'interroge plus sur les conditions de possibilité de cette société-là.
On va continuer à évoquer ces conditions de possibilité avec, là encore, une difficulté de s'y retrouver, parce que pour des gens qui n'ont pas nécessairement de smartphone, de téléphone intelligent, qui ne sont pas familiers avec les applis, ces petits programmes informatiques qui permettent de commander un taxi ou qui permettent de réserver un appartement. Sandra Wabian, vous avez exploré, vous avez étudié ces bouleversements en cours. Comment s'y retrouver selon vous?
Oui, tout à fait. On a élaboré une typologie avec Émilie Daudet, une collègue du Crédoc. Et en fait, finalement, le seul trait d'union dans ce grand gloubi-boulga du collaboratif, c'est le fait que les individus sont parties prenantes. Donc, ce sont des actions entre particuliers. Mais après, on peut essayer de construire une sorte de continuum qui va aller du degré de zéro du collaboratif, c'est-à-dire juste des échanges entre particuliers qui sont pas très loin des échanges marchands, parce que quand on échange quelque chose avec quelqu'un contre de l'argent, finalement on n'est pas très loin, sauf qu'on n'est pas passé par Internet, hein, jusque, on va dire, vraiment le cœur du collaboratif qui fait ce qui fait un petit peu rêver, c'est-à-dire des plateformes qui vont apporter un bien commun. Alors l'exemple peut-être le plus symptomatique, c'est Wikipédia, c'est-à-dire venir des individus qui vont apporter leur savoir sans aucune rétribution et qui vont créer un bien commun, une université qui va s'enrichir, une encyclopédie en ligne qui va s'enrichir de génération en génération.
Michel Lévy, Provençal, vous suivez là aussi ces évolutions au travers de TEDx, un événement où on a un certain nombre d'acteurs de la société de demain qui échangent des positions au travers de l'échappée volée. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Effectivement, la société qu'on est en train de dessiner là est une société où finalement les acteurs économiques ne sont plus d'un côté les consommateurs, de l'autre côté les producteurs. Tout cela se brouille, on est en train de mélanger producteurs et consommateurs. C'est exactement ce qui se passe avec Uber, autrement dit des particuliers qui commencent à prendre leur propre voiture et à venir concurrencer les professionnels, surtout quand ce sont des métiers qui sont réglementés au départ. Donc c'est là où ça commence à poser un vrai problème.
Ça veut dire que c'est mal ?
C'est pas forcément mal, je mettrai pas de jugement de valeur en face de ça, je pense que le fait de détruire
permet de construire
aussi en même temps, c'est-à-dire qu'on crée une nouvelle économie.
Sauf quand c'est vous que l'on est en train de détruire.
C'est l'histoire de l'humanité finalement et de l'économie, cette destruction permanente qui permet de créer de nouvelles économies, de nouveaux emplois.
Sauf qu'on a l'impression que les choses s'emballent véritablement, Frédéric Fréry, puisque quand on voit aujourd'hui la valorisation de ces sociétés, quand on voit ceux qui sont devenus millionnaires, milliardaires, on a l'impression que c'est véritablement une nouvelle classe dirigeante qui est en train de naître, avec des sommes complètement astronomiques à leur patrimoine, avec des gens qui sont aujourd'hui très jeunes et qui sont en train d'enterrer l'ancienne économie. Et dans l'ancienne économie, il y a ce qu'on appelle des salariés.
Oui, tout à fait. Mais il faut se souvenir que l'entreprise, comme on la connaît, est en fait une construction relativement récente. Elle a 300-400 ans. Et avant, on fonctionnait par projet, en fait, sur des marchés avec des marchands et des échoppes. Et ça a été remplacé au moment de la Renaissance parce que le monde était devenu trop grand pour pouvoir fonctionner de manière répétitive avec des gens qu'il fallait trouver à chaque fois quand on en avait besoin. Et donc, on a décidé de remplacer ça par des salariés et que l'entreprise possède ses propres actifs. Ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, c'est que peut-être on a un retour au système précédent. Et l'association qu'on fait systématiquement entre l'entreprise et l'économie de marché, à mon avis, est un peu rapide parce qu'on peut très bien avoir une économie de marché sans avoir d'entreprise.
Arthur de Grave.
Oui, c'est intéressant ce que vous rappelez, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on voit le salariat comme la panacée, comme une espèce de société idéale, c'est la garantie de la cohésion sociale, c'est la garantie de...
C'est la garantie aussi d'avoir du boulot, car aujourd'hui, le CDI est...
Non, mais ce qu'on rappelle, c'est qu'avant la révolution industrielle...
Il y a aussi tous les exclus de ce salariat.
Mais ce qui est vrai, c'est qu'avant la révolution industrielle, les gens possèdent leur outil de travail, un petit peu comme ce qu'on commence à voir réapparaître. Et au début, quand le salariat de masse s'est imposé, les gens l'ont plutôt perçu comme une privation de liberté, comme une aliénation. Donc c'est là où on voit qu'en fait cette évolution est très ambivalente.
Je crois qu'en fait c'est comme tout, il n'y a pas de support qui soit bien ou mal. L'internet n'est pas bien ou mal par rapport au livre, l'entreprise n'est pas bien ou mal par rapport au collaboratif. C'est un support et après s'engouffrent dedans des gens qui vont avoir des objectifs différents. Donc aujourd'hui, le fait que les individus prennent le pouvoir, entre guillemets, ça a des vertu positive, dans le sens où les gens sont plus acteurs, ils vont pas forcément accepter des offres qui leur sont imposées, et puis ça en a d'autres un peu plus négatives, c'est-à-dire moins de régulation, une difficulté pour le législateur à suivre, et puis des conséquences un peu économiques compliquées.
Nous avons Gilbert au standard. Bonjour Gilbert.
Oui, vous parliez de collaboration, en fait, derrière, et cette notion-là, il y en a qui font passer... Excusez-moi, des notions de philanthropie. Et en fait, on regarde, quand on constate, et vous l'avez dit au travers de la fainéantisation, il y a des enjeux de fortune énormes derrière. Et il se trouve que ces gens-là payent peu d'impôts. Or, en fait, la seule façon d'avoir une collaboration efficace à l'activité sociale ou bien humain, c'est l'impôt. Plus on gagne d'argent, plus on devrait payer d'impôts. Et ces gens-là, ils ont des fortunes immenses, mais ils sont imposés pour Upsilon où ils se débrouillent pour ne pas être imposés. Ce n'est plus de la philanthropie. Tous les dégâts qui sont causés, par exemple, par Uber, sa fortune, elle devrait servir à compenser les inconvénients qu'il y a sur les par exemple, les chauffeurs de taxi. C'est-à-dire, c'est donnant. Vous gagnez beaucoup, mais on récupère par les impôts les dégâts sociaux que vous faites.
Merci Gilbert. Michel Lévy, Provençal.
Oui, en fait, ce dont on parle depuis tout à l'heure, finalement, c'est la question de la désintermédiation. Internet a permis de désintermédier un certain nombre de métiers, un certain nombre d'activités, autrement dit, de permettre...
Désintermédier, autrement dit, des et intermédier, on en
termine, on supprime l'intermédiaire, les gens échangent entre eux, c'est ça ?
C'est ça, exactement. C'est-à-dire que les individus peuvent échanger sans avoir un intermédiaire particulier. Mais en même temps,
c'est-à-dire qu'avant, j'allais chez le marchand pour acheter un livre d'occasion. Aujourd'hui, vous pouvez me le vendre directement par le biais d'Amazon. Donc, il y a quand même un intermédiaire.
Et c'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il y a une promesse au départ de désintermédiation et on voit cette désintermédiation apparaître pendant un temps. Mais très vite, de nouveaux acteurs, finalement, sont en train de devenir des intermédiaires, mais de masse. C'est-à-dire que là où on avait des petits intermédiaires, on commence à retrouver des énormes intermédiaires, les Google, les Amazon, etc.
Il se trouve néanmoins, Frédéric Fréry, que l'une des caractéristiques de ces sociétés, c'est d'être des multinationales. Airbnb peut aujourd'hui vous permettre de louer un appartement partout dans le monde, alors qu'Airbnb n'est que dans un lieu, pas nécessairement dans le lieu.
Et en l'occurrence, le plus de chambres qu'ils ont au monde, c'est à Paris.
Alors comment expliquer que cette nouvelle économie se fasse en quelque sorte au mépris des frontières et notamment des frontières de l'impôt, puisque c'est ça le problème.
Alors ça, c'est évidemment un scandale, mais vous l'avez dit tout à l'heure, il se développe extrêmement vite. Hein, la plupart des sociétés dont on parle là, elles ont 5-6 ans, pas plus. Et bah, le régulateur, il met un petit peu de temps pour suivre derrière. On peut espérer évidemment que ces profits-là seront taxés, car ils doivent l'être comme tous les autres, mais ça prend un petit peu de temps avant qu'on puisse repérer exactement ce qui se passe et savoir exactement quel argent a été gagné.
Mais du coup, on annonce par exemple cette semaine avec des tambours et des trompettes qu'Amazon va payer ses impôts en Allemagne, comme si c'était en quelque sorte vertueux de payer enfin
retour
des impôts.
Retour à la normale.
Sandra Wabian, c'est quand même étonnant de faire de la règle une exception.
Oui, mais alors je crois que quand on parle de collaboratif, on parle beaucoup justement de tout ce versant économique. Mais il y a quand même dans le collaboratif tout un foisonnement de gens qui interviennent sur Internet et qui, par exemple, vont mettre un tutoriel de comment ils ont fait leur gâteau.
Un tutoriel, c'est-à-dire un petit film
qui explique comment est-ce qu'ils ont fait leur meilleure recette. Donc, c'est complètement désintéressé et c'est quand même accessible. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un internaute sur deux utilise ce savoir et cette connaissance. Donc, il n'y a pas que l'économie, il n'y a pas que le marchand dans le collaboratif. Il y a aussi des initiatives, on va dire, vertueuses.
Si Bertrand est au standard. Il nous appelle de la région toulousaine. Bonjour Bertrand.
Oui, bonjour, je suis Bertrand Morel-Bessé, je suis formateur conseil et je m'intéresse particulièrement à l'émission et je pense qu'il y a un pan qui manque là, dans la discussion.
Dites-nous.
Il s'agirait peut-être de développer aussi cette intelligence collaborative au sein des entreprises. On voit apparaître certaines scopes ou entreprises en fait qui sont créées par les salariés qui rachètent même leur entreprise et qui fonctionnent extrêmement bien, avec des résultats économiques surprenants. Et je pense qu'il faut aussi mettre ça en avant, le fait de pouvoir faire évoluer l'entreprise. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit que le management pyramidal a tendance un peu à disparaître de plus en plus dans certaines structures. Il faudrait développer ça de plus en plus. Ça permet aux salariés, comme le disait la dame tout à l'heure, d'être partie prenante, de se prendre en main, de s'épanouir, de se révéler, d'échanger et de créer. Ça crée beaucoup d'émulation aussi.
Voilà, Arthur de Grave.
Témoigner de ça.
Arthur de Grave va vous répondre. Merci beaucoup Bertrand pour ce témoignage et cette remarque.
Mais je suis très content que vous en parliez Bertrand parce que je suis complètement d'accord avec vous. Je pense qu'effectivement il y a une forme de continuum et que c'est pas pour rien qu'on a sous-titré notre livre La fin des hiérarchies. Parce que c'est de ça qu'il est question. C'est de l'aplatissement des organigrammes, c'est de la suppression de ce lien de subordination qu'impliquait le salariat. Alors vous avez des plateformes comme Uber qui suppriment complètement en fait, qui vont reposer sur du travail indépendant, mais au sein des entreprises il y a aussi cette pression à changer les modes de travail. Et j'en sais quelque chose puisque WeShare, en fait, quand on a créé cette organisation il y a quelques années, on était un groupe de vingtenaires qui avions fait un petit tour par les entreprises classiques et franchement, on n'avait pas vraiment aimé ce qu'on avait trouvé. Donc on a voulu s'échapper, nous aussi, et créer notre organisation, notre monde, pour correspondre à cette organisation collaborative qu'on recherchait.
On va continuer à évoquer ces bouleversements introduits par l'économie collaborative et ce qu'on appelle l'ubérisation de l'économie du nom d'Uber, cette société qui propose des voitures avec chauffeur et qui concurrence les taxis. On en parle tout de suite après les Beatles, un petit groupe qui chante « With a little help from my friends », l'économie collaborative, ça transforme l'amitié en réseau. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends.
Service public sur France Inter, on parle de l'économie collaborative, de l'ubérisation de la société, autrement dit de l'utilisation d'Internet pour pouvoir partager des objets, des services, partager un appartement pour partir en vacances, concurrencer les taxis avec sa voiture personnelle. Bref, un champ nouveau qui est en train d'apparaître et de prendre de plus en plus d'importance dans notre quotidien. Mais lorsqu'on songe par exemple au Vélib, autrement dit au vélo en partage, ou aux Autolib, aux autos en partage, Sandra Wabian, vous qui êtes directrice de recherche au Crédoc, a-t-on affaire au même phénomène ?
Alors, nous, on a essayé justement de un peu faire le tri dans toutes les initiatives et notre position, c'est que c'est plutôt non. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des initiatives qui partent du bas à Vélib, c'est quand même une collectivité qui l'organise. Il n'y a pas non plus vraiment d'échange entre individus, on n'a pas à faire confiance à quelqu'un d'autre. Parce que le principe du collaboratif, c'est quand même ça, c'est-à-dire des échanges qui vont se faire de pair à pair, d'individu à individu.
Et donc, c'est pourquoi les notations de ces individus sont aussi importante.
Exactement.
Puisque tous ces systèmes, lorsque vous prenez une voiture Uber, vous notez le chauffeur et les clients sont notés, c'est-à-dire que les chauffeurs refusent éventuellement de prendre des clients qui seraient mal notés, Arthur de Grave.
Oui, ça marche dans les deux sens. En fait, c'est vrai que le cas du Vélib est un peu limitrophe. En fait, d'un certain point de vue, ça ressemble, puisqu'on est dans l'économie de la fonctionnalité.
C'est-à-dire l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire.
C'est-à-dire que du point de vue du consommateur, vous n'avez plus à posséder le bien, vous cherchez simplement l'usage.
C'est quelque chose. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin de voiture, vous avez besoin d'un temps de transport en voiture.
D'aller d'un point A à un point B. Après, effectivement, dans l'économie collaborative, on parle parfois de pair à pair. L'idée, c'est qu'on agrège une offre à partir des possessions des uns et des autres. Ce qui fait qu'Airbnb, par exemple, serait l'une des premières chaînes hôtelières mondiales en termes de capacité d'accueil aujourd'hui, mais n'a pas construit un seul hôtel,
une seule appartement.
Exactement, oui. C'est juste un agrégateur de votre appartement.
Alors peut-être que juste derrière, il y a un peu cette idée qu'on va avoir des bienfaits pour la planète parce qu'on va finalement produire moins de biens. Donc si on a des Vélib, on ne va pas avoir de vélo par exemple. La question, c'est qu'on ne sait pas très bien le mesurer parce que quand on va prendre une chambre d'hôtel, au lieu de prendre une chambre d'hôtel, on va prendre une chambre chez Airbnb, est-ce qu'on ne part pas deux fois plus en week-end ? Donc est-ce que finalement, c'est vraiment bon pour la planète ?
Michel Lévy-Provençal,
oui. Il y a une dimension que nous n'avons pas évoquée, c'est la puissance et l'évolution extrêmement rapide de ces entreprises. Quand vous voyez une entreprise comme Airbnb, Uber, elles sont passées d'une valorisation de 0 à 1 milliard de dollars en moins de 18 mois. Cette évolution exponentielle, elle est due principalement au réseau et à la capacité du réseau à s'étendre. Nous sommes 3 milliards d'internautes aujourd'hui, en 2020, 2 milliards de plus, le marché va littéralement exploser.
Bonjour Lénora Krief.
Bonjour Guillaume.
Pour essayer de faire entendre à nos auditeurs ce qu'était cette société Uber, eh bien, vous n'avez pas hésité à prendre une voiture Uber et à comparer ce service offert par Uber au service offert par les taxis.
Tout à fait. Si les entreprises ont peur de se faire ubériser, c'est en raison, comme vous le disiez, du succès phénoménal de cette société américaine du transport VTC, les véhicules de transport avec chauffeur. Uber Pop, Uber Berline, Uber X, Uber Van, plusieurs catégories de voitures sont proposées avec différentes qualités de service. Avec les VTC, vous n'avez plus besoin, comme dans un taxi, de sortir de l'argent ou votre carte bancaire pour régler le prix de la course. Le prélèvement se fait automatiquement sur le compte de votre application. J'en ai fait l'expérience justement en commandant avec mon smartphone un Uber Pop, le service proposé le plus économique. 10 minutes plus tard, je reçois un texto m'annonçant que le chauffeur est arrivé. Dans son Audi A4, je retrouve Amine qui a rejoint la cyber Uber depuis un an, surtout pour pallier aux fins de mois difficiles.
Je ne travaille pas énormément avec Uber. Pour la simple et bonne raison que j'ai mon travail à côté qui me prend déjà mes 37 heures par semaine. C'est un complément de revenu qui peut me permettre de faire des choses en plus, on va dire, de combler les fins de mois un peu difficiles.
Depuis le 1er janvier, Uber Pop est considéré comme une activité illégale. Est-ce que vous vous êtes déjà fait arrêter par la police ?
Non, pas arrêté par la police. Par contre, illégal, je ne suis pas sûr à 100%. D'après Uber, ce n'est pas illégal, pour l'instant.
La société Uber semble assez confiante pour son avenir, non ?
Elle semble confiante et elle donne confiance. Pour la simple bonne raison qu'elle veut faire bouger les choses. C'est vrai que, entre guillemets, en France, c'est difficile de faire bouger les choses. Et amener cette petite modernisation à notre mode de fonctionnement actuellement, c'est motivant, on va dire. C'est motivant. Ça donne un peu plus de lumière.
Pour vous, ça va dans le sens logique des choses aussi ?
Ben, complètement. C'est le monde futur, c'est ce qui nous attend. Il faut évoluer avec son temps. On a évolué. voilà quoi, la voiture qui va rouler toute seule, etc. Ça arrive, ça avance et il faut suivre. On peut pas se permettre de rester derrière. Il faut savoir, est-ce qu'on s'intéresse par rapport au gouvernement, est-ce qu'il s'intéresse principalement juste aux taxis ou est-ce qu'il s'intéresse aux intérêts du peuple? Le peuple qui cherche actuellement à payer de moins en moins parce qu'ils ont de gros problèmes financiers. Les jeunes, faire une course à 4 euros, c'est merveilleux pour eux. Quand ils me disent une course à 4 euros, ça me coûte pas cher, juste 4 euros, voilà, je suis tranquille, j'ai pas besoin de prendre ma voiture, ou j'ai pas besoin d'appeler mes parents, ou j'ai pas besoin de galérer en vélo ou quoi que ce soit. Donc moi, je dis une grosse balance. Il faut quand même penser aussi un peu au peuple qui demande à ce que, surtout la jeunesse actuellement, qui sont hyper connectés, de leur faciliter les choses, quoi. Désolé. 10 euros.
10 euros. 10 euros pour une durée de 24 minutes.
Voilà.
Et on a mis environ...
On a fait 3,5 miles à peu près.
10 euros pour 24 minutes de trajet dans Paris, c'est environ la moitié du prix d'une course dans un taxi traditionnel. Pour ce chauffeur taxi, depuis 28 ans, artisan puis locataire, ces particuliers sont responsables de la baisse de leur activité.
Ils nous enlèvent 40% de nos clients. Je suis déclaré interdit bancaire une fois par 24 heures.
Et vous demandez l'interdiction des VTC?
Je ne demande pas l'interdiction, mais il faut une limitation. C'est-à-dire que quand on présente un projet, c'est un projet qui couvre l'intérêt des gens. Je dis tout le monde est concerné dans cette affaire de VTC parce qu'il n'y a pas assez de travail. C'est-à-dire que le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, le cher président de la République, M. Hollande, il a transformé notre chambre de travail en chambre de bataille. Aujourd'hui, non seulement on ne gagne pas notre vie, on est en train de se taper sur la gueule avec le taxi VTC. Vous vous rendez compte, les chauffeurs qui ont emprunté 250 000 euros, ils ont acheté une voiture 30 000 euros, 50 000 euros. Ils ont payé 10 000 euros le droit d'enregistrement. Ils ont une famille à nourrir. Il y en a beaucoup de chauffeurs. Maintenant, la licence a chuté à 180 000 euros. Qui c'est qui va rembourser cet argent? Imaginez-vous de ce qui peut arriver à plusieurs milliers de chauffeurs qui sont dans telle situation.
Et vous, ça ne vous tente pas de devenir VTC?
Je pensais, mais c'est-à-dire vis-à-vis aujourd'hui, on est dans une situation qu'on n'ose pas d'investir. Alors, dans telles conditions, je préfère de rester un petit salarié qui gagne moins, qui gagne, je ne sais pas, 1 000 euros peut-être par mois, qu'investir dans une voiture à 80 000 euros et de me lancer dans un conflit avec le chauffeur de taxi. Si j'étais un peu, comment dire, j'avais une espérance pour une amélioration, croyez-moi, peut-être que je prenais un VTC, un Viano, quelque chose comme ça, pour mon impôt. Voilà, je suis méfiant par rapport de la situation actuelle. Voilà, mademoiselle.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci, mademoiselle Lenora Krief. Votre réaction, Michel Lévy, provençal, à ce reportage qui montre bien qu'on a d'un côté des gens qui... J'allais dire en profite, mais bon, gagner 10 euros en 24 minutes avec un véhicule dont il faut payer l'essence, l'assurance, on se demande vraiment ce qui reste à la fin. Et puis de l'autre côté, des taxis qui, eux, sont frappés de plein fouet par cette concurrence, puisque évidemment, les chauffeurs qui utilisent Uber n'ont pas payé de plaque, n'ont pas payé le droit de faire le taxi.
Ce n'est que le début, j'écoutais votre reportage et j'étais très intéressé par la juxtaposition des bips et des voix. Savez-vous qu'en ce moment même, Uber, mais pas que Uber, Google, sont en train de développer des voitures autonomes. Donc Uber est lui-même en train d'être ubérisé. Autrement dit, remplacé potentiellement dans les 5 prochaines années par des voitures autonomes. Autrement dit, plus du tout de chauffeurs dans les 5 prochaines années pour pouvoir nous transporter d'un lieu à un autre. C'est exactement le monde dans lequel nous sommes en train d'entrer. Avec cette vitesse croissante, exponentielle du numérique d'une part, qui n'est pas du tout raccord avec la vitesse du vivant. Notre vitesse à nous, notre économie qui est effectivement basée sur des échanges entre humains.
Mais ça, c'est un monde quand même un peu effrayant, Frédéric Fréry, puisque si on prend par exemple le manifeste du Parti communiste, Marx explique bien que la bourgeoisie est là pour bouleverser sans cesse les rapports sociaux et qu'en bouleversant les rapports sociaux, elle tire profit de ce bouleversement en mettant en quelque sorte à la marge les prolétaires et l'armée de réserve. Donc ça, c'est l'explication marxiste originelle. Mais on se demande, au fond, qu'est-ce qui a véritablement changé entre des gens qui utilisent leur voiture 24 minutes pour gagner 10 euros et des gens qui gagnent des milliards d'euros grâce à la valorisation d'Uber.
Et moi, je dirais que paradoxalement, l'entreprise, et notamment dans la vision marxiste qui était vécue comme un lieu d'aliénation et de spoliation, risque à terme de devenir le seul lieu de sécurité dans un système marchand généralisé. Et que ceux qui auront la chance d'avoir encore un emploi seront ceux qui seront protégés, en fait.
Ça, on est bien d'accord, mais c'est justement ça le problème. Puisque si l'économie tout entière est ubérisée, on voit que c'est en quelque sorte l'extinction du CDI et du salariat qui est visée.
Absolument.
Mais l'économie tout entière n'est pas ubérisée, et il y a aussi dans le collaboratif tout un tas d'initiatives qui vont justement contre le capitalisme.
Par exemple
Tout ce qui est plateforme, on va dire des AMAP, ou des échanges, des gens qui vont en fait se faire des échanges de services, ça s'appelle des accorderies. Ils vont donc, il y en a un qui va donner un petit cours de maths, l'autre qui va pouvoir faire un petit bricolage. Est-ce que c'est la monétarisation d'un monde infernal dans lequel les gens ne se parlent plus? Non, on voit bien qu'au contraire, même ça va créer du lien social, qu'il va y avoir des échanges et que la société va être un peu meilleure. Donc il n'y a pas que de l'ubérisation. Il y a de l'ubérisation, mais il y a aussi d'autres initiatives à côté.
Arthur de Grave.
Je pense que par ailleurs, l'économie traditionnelle s'en sort très bien toute seule pour se tirer des balles dans le pied. Regardez l'évolution, la stagnation des salaires réels depuis 30 ans, regardez l'évolution de la courbe du chômage, et regardez aussi le fait que les gens qui ont des CDI aujourd'hui dans pas mal de boîtes ont juste envie de partir, quoi. Donc je pense qu'en fait, il faut pas non plus idéaliser ce monde-là et se demander quel univers ça crée, quoi. Je pense que effectivement, le fait que la main-d'œuvre soit de plus en plus indépendante, on y va, on sera bientôt à un quart aux États-Unis, je crois. Et il faut réfléchir au monde d'après. Nous, la semaine, il y a 10 jours, on avait un événement à Paris.
Vous refusez le monde d'après?
On peut très bien refuser.
On peut imaginer, parce qu'il arrive, Enfin, on pourrait en parler longtemps, mais en tout cas, je suis en relation avec des gens qui ont lancé des syndicats de travailleurs indépendants aux États-Unis. On les avait au Wish Airfest il y a 10 jours, et voilà, ça c'est intéressant de réinventer un contrat social.
Et on n'a pas parlé non plus de la finance participative, donc où les individus vont réussir à financer des projets nouveaux.
Et de la production participative aussi.
Et de l'auditeur participatif, Xavier, qui nous appelle de Marseille. Bonjour Xavier.
Merci pour mon appel. Voilà, je travaille pour un bailleur social en fait à Aix-en-Provence, et donc c'est cette notion d'économie collaborative, c'est quelque chose en tout cas qui nous intéresse beaucoup, parce que ça répond à deux problématiques. La première, ben justement, favoriser le lien entre les locataires et les habitants, et la deuxième, permettre à nos locataires de faire des économies. Donc par exemple, les opérations d'habitat participatif, c'est un support en tout cas pour ce type d'économie collaborative qui peut fonctionner, auquel en tout cas on croit. Ma question en fait, c'était de savoir si on n'avait pas un peu une économie collaborative à deux vitesses qui se mettait en place, avec d'un côté justement cette économie qui est vraiment basée sur le sens premier hein, de cette collaboration entre habitants, et puis une deuxième, une économie de profit qui justement utilise cette économie comme support pour développer une économie et des profits.
Arthur de Grave, réagir à la question auditeur.
Vous avez raison. C'est un univers extrêmement hétérogène. Et l'enjeu, effectivement, vous parliez tout à l'heure de générer de la confiance entre les individus. Si vous mettez en relation des gens qui sont dans le même quartier, des gens limite de la même famille, des gens qui se connaissent, vous n'avez pas besoin d'avoir un intermédiaire très, très, très sophistiqué. Donc vous n'allez pas avoir de grosses plateformes qui vont se constituer entre eux. L'enjeu, en fait, c'est de faire en sorte que des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont aucune raison de se faire confiance, par exemple sur Airbnb, s'accueillent les uns chez les autres. Et ça, c'est quand même quelque chose de compliqué et qui implique beaucoup plus de travail, beaucoup plus de sophistication du côté de la plateforme. Donc c'est effectivement, du coup, on peut comparer, imaginer le covoiturage Blablacar, par exemple, avec l'autostop. Blablacar est une grosse start-up française. La différence, c'est que l'autostop avec Blablacar n'est plus un phénomène de marge, mais devient un truc totalement grand public.
Nous avons Corinne, une autre auditrice qui nous appelle d'Ivry. Bonjour Corinne.
Oui, bonjour. Merci pour votre émission que j'écoute tous les jours. Bonjour à tout le monde. Donc moi, je voulais surtout témoigner parce que je suis sur Ivry depuis 15 ans et je pratique depuis très longtemps le partage, l'échange, le don. Tout ceci gratuitement. Alors au début, ça surprenait beaucoup les gens parce que quand on leur propose quelque chose gratuitement, ils n'y croient pas vraiment. Mmh. Ils ont toujours l'impression qu'on va leur demander autre chose en échange. Donc maintenant, on est bien installé, on a tout un réseau. Et par exemple, eh ben, quand on rachète un canapé, qu'on a notre vieux canapé, eh ben, on envoie un mail à tout le monde pour dire si quelqu'un a besoin de ça ou si on connaît quelqu'un qui a besoin d'un canapé. Pour les, par exemple, les départs en colonie de vacances des enfants au ski, pour éviter d'avoir acheté une combinaison, les chaussures, juste pour une semaine, ben voilà, on envoie un mail en disant qui pourrait me prêter une paire de chaussures en telle pointure, qui pourrait... Et on fonctionne comme ça, les vêtements des enfants qui ne vont plus, les vélos qui ne sont plus à la taille de l'enfant, et ben on les donne, alors soit à des associations, soit à des parents qu'on connaît, parce qu'on a beaucoup de familles sans papier aussi ici sur la ville. Et voilà, ça fonctionne comme ça depuis des années. Alors maintenant on a tout un réseau parce que voilà, ça se transmet de bouche à oreille. Et pareil, je suis en copropriété, et ben si on a besoin d'une friteuse, d'une perceuse, d'un escabeau, d'un diable, quelque chose comme ça, et ben on par mail et on fait des échanges.
Vous en faites effectivement la demande. Merci pour ce témoignage, Corinne. Votre remarque à ce sujet, Sandra Wabian.
Oui, en fait, là, ce dont parle l'auditrice, c'est finalement la seconde vie des objets. C'est-à-dire qu'on va avoir un objet et qu'on va essayer d'utiliser toutes les potentialités de cet objet et pas simplement le laisser dormir dans un placard. Donc, l'auditrice en question, là, est rentrée sur ces pratiques par des biais, on va dire, plutôt altruistes, hein, par des leviers altruistes, le fait d'avoir envie de partager. Globalement, en France, les gens rentrent plutôt par le levier économique. C'est-à-dire qu'au départ, bah, ils veulent partir en vacances, ils n'ont pas trop de sous, donc ils vont utiliser un peu le système D. Et puis après, en fait, tout un tas d'autres bénéfices vont se révéler. Ah bah finalement, c'est sympa, on va avoir des conseils sur le quartier autour de la chambre que j'ai louée. C'est pas mal aussi, par exemple, de partager ses vêtements, c'est un peu plus écolo, au lieu de tout jeter, on peut un petit peu partager les biens. Donc, le fait de rentrer de manière dans les pratiques de manière économique pour des raisons financières ne veut pas dire pour autant que les gens sont complètement guidés uniquement par l'appât du gain. En fait.
Nous avons un message de Simon. Simon nous dit qu'il écoute l'émission depuis Berlin et qu'il voulait signaler l'existence dans la ville de Berlin d'un collectif qui luttait contre la hausse des loyers et qui chassait les personnes louant leur appartement sur Airbnb. Parce qu'il faut expliquer là aussi Frédéric Fréry que cette initiative à l'origine un peu artisanale qui consistait à dire voilà, on a par exemple un canapé dans un coin qui peut accueillir des hôtes de passage est devenu un véritable business, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui tout simplement ont des appartements qui ne servent qu'à la location, ce qui en soi n'est pas répréhensible, mais modifie évidemment la physionomie des quartiers.
Alors ça modifie évidemment hein, le quartier du Marais par exemple à Paris est maintenant enfin souvent donné en exemple comme une espèce de dortoir en fait géré par les gens qui sont sur Airbnb, donc ça peut effectivement être extrêmement préjudiciable à terme. Il y a une autre question qu'il faut aussi évoquer à un moment, c'est comment est-ce que l'État va pouvoir collecter les impôts, comment les systèmes sociaux vont pouvoir se financer dans un système qui pour l'instant lui échappe, et quelle sera en fait la réaction de l'État par rapport à tout ça? Est-ce qu'il va laisser faire ce qui est un peu dangereux pour lui? Est-ce qu'il va se mettre à réguler très fortement, ce qui limitera quand même assez nettement ce genre de choses, pour des plateformes qui, quand même, il faut le reconnaître, pour la plupart, sont localisées à l'étranger, ce qui ne simplifie pas le problème.
Et oui, puisque ça veut dire qu'avec une plateforme à Singapour, on peut très bien louer un appartement à Villers-Cotterêts, ce qui pose de nombreux problèmes sur le plan de la fiscalité. Votre réaction, Arthur de Grave?
Alors déjà, je pense que le meublé touristique, la location à court terme touriste à Paris, c'est un phénomène beaucoup plus ancien qu'Airbnb. On n'a pas attendu Airbnb pour que ce soit massif. On a des quartiers de Paris où 20% des appartements sont inoccupés la plupart du temps. C'est effectivement scandaleux. J'habite à Montmartre, j'en sais quelque chose. Pareil, donc il y a déjà ce phénomène. Je pense que Airbnb, moi personnellement, j'accueille des gens régulièrement chez moi quand je ne suis pas là. Je pense pas influer sur les prix du marché immobilier à Paris en faisant ça. Je pense qu'effectivement, il y a des gens qui abusent du système. Je pense qu'ils le faisaient avant. Ensuite, sur les questions de collecte de l'impôt, il y a des avancées qui se font. Par exemple, sur la perception de la taxe hôtelière à Paris, aujourd'hui, c'est la plateforme elle-même qui va la percevoir, qui va devenir l'auxiliaire de la puissance publique dans ce cas-là. Donc, il y a des solutions.
Michel Lévy-Provençal.
Il y a quand même une différence majeure, c'est l'impact du réseau.
Et du coup, le fait qu'on démultiplie cette capacité de partage et qu'il y a un impact directement sur les prix. Il y a des chiffres hein, qui circulent. 40% des entreprises du Fortune 500 pourraient, par les effets mêlés à la fois du collaboratif mais aussi de la robotisation, devenir finalement, soit disparaître complètement à horizon 2030. 40% des entreprises du Fortune 500, soit être radicalement transformées. C'est potentiellement 2 milliards d'emplois qui peuvent être impactés à horizon 2030. Alors, je ne dis pas que 2 milliards d'emplois se disparaîtront. Peut-être que d'autres emplois apparaîtront. Rappelez-vous, il y a 15 ans, en 2000, si vous faites un test, si vous vous posez la question, est-ce que en 2000, vous imagineriez faire ce que vous faites aujourd'hui ? Imaginez-vous maintenant en 2030.
Sandra Wabian.
Oui, juste là, on parle de certaines conséquences. Il y en a d'autres aussi. Il y a des conséquences sur l'autorégulation, le contrôle. C'est-à-dire que finalement, ce système, il fonctionne si on donne des notes et on dit, ah ben, monsieur Duchemol, quand il est venu dormir chez moi, il a laissé l'appartement tout propre, donc je vous invite à l'accueillir dans votre appartement. Mais donc, c'est un système d'autorégulation et qui finalement vient un petit peu en contradiction avec le droit à l'oubli. Parce que tout le monde a envie d'avoir sa vie privée pour soi, mais si on peut retrouver toutes les traces de ces passages sur, pendant toutes ces vacances ou tous les usages des voitures, comment est-ce qu'on va faire pour combiner à la fois cette envie de confiance et qui va s'asseoir sur des avis, et puis un peu d'intimité aussi.
Un mot de conclusion, Frédéric Fréry, vous qui êtes professeur de stratégie à l'ESCP Europe, vers quel monde va-t-on ? A-t-on tous la menace, en quelque sorte, d'être ubérisé, autrement dit, de voir son métier bouleversé par un système sur Internet.
Son métier bouleversé par un système sur Internet, ça me paraît incontestable. Même des industries qui paraissent à l'abri. Hein. Je voyais dernièrement Tesla qui lance
des
batteries. Des profs, bien sûr. Mais regardez Tesla qui lance des batteries que les gens peuvent mettre chez eux et ils pourront avec ça éventuellement revendre de l'électricité à leurs voisins. J'ai une grosse entreprise comme EDF avec des centrales nucléaires et un réseau de distribution électrique nationale pourrait être ubérisé. Alors maintenant, est-ce que c'est une menace ? Bah, ce qu'on dit toujours en économie, c'est que le progrès, ça fonctionne aussi par l'innovation. Et l'innovation, ça consiste à remplacer des choses par d'autres choses. Et il faut toujours voir le côté positif des choses, bien évidemment. Le système créera d'autres richesses par d'autres moyens.
Arthur Degrave, un mot.
Brandir l'ubérisation, on a l'impression que les barbares attaquent. Je pense qu'il faut se demander ce que font les barbares derrière, ce qu'ils construisent derrière. Après tout, on est en France, c'est un pays qui tient son nom d'une bande de barbares germaniques. Regardez, c'est pas
un pays aussi dont l'économie ne va pas extrêmement bien pour le moins. Et on se dit qu'on n'a pas besoin de coups de butoir, venu d'ailleurs notamment avec l'ubérisation. Un mot de conclusion, Michel Lévy, Provençal, peut-être pour présenter l'échappée volée le 6 juin prochain au château de Chambord, un événement en partenariat avec France Inter.
Absolument. L'idée, c'est d'apporter à la fois de l'information, mais aussi réfléchir et agir, s'engager pour des initiatives qui ont du sens et qui réfléchissent à notre futur. Je pense que à la fois les politiques, le monde de l'entreprise n'est pas assez au fait de ces évolutions majeures qui vont nous arriver dans les prochaines années.
Merci à tous les cinq d'avoir été avec nous ce matin. Bonjour Nagui. L'économie collaborative, elle donne lieu également à la bande originale.
Alors, j'ai 2 heures avant de ramasser les copies ou comme sujet de philo, là, j'avoue que j'avais pas
préparé. Vous avez 1h30, en tout cas, après le flash.
Pour recevoir Vincent Moscato et Benoît Magimel, deux comédiens, l'un est ex-rugbyman, évidemment, et animateur de radio, que nous recevons dans la bande originale. Vous savez tout.
Merci, Nagui. On vous retrouve tout de suite après le flash.